esquif. Notre parc si fragile humaine loin des récifs. Un souffle fraternel qui nous pousse du capitaine aux mousses. Where we go and we go home. Où nous allons, un, nous allons tous. Where we go and we go home. Si l'un de nous tombe, alors c'est tous. Revêtir sur ton dos ton armure. Tu sais, celle qui repousse les murs. Brise les tours d'un coup de ton épée. Celle qui libère pour un pour tous la lumière sur nos frimousses. Celle qui nous dit que si l'on est un, on est tous. Where we go and we go home. Where we go and we go home. Where we go and we go home.
Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle conférence sur LGC5. J'espère que vous avez passé un bon été. Moi, ça a été très actif, beaucoup de randonnées, beaucoup d'activations, de géobiologie, radiesthésie, chamanisme, tout cela qui est dans mon travail, dans mon activité en tant qu'auto-entrepreneur enseignant. Donc, je vous remercie d'être là. Ça a été extraordinaire. On était chaud quand même aussi et physique. Physique au niveau des randonnées, puisque nous sommes allés visiter les sentiers des cathares, les cathares dans l'Aude, et nous avons randonné. Et parfois, bien sûr, il y a des randonnées un peu difficiles pour accéder à ces hauts lieux d'énergie à ce niveau-là. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler des portes du temps. On va voir un petit peu qu'est-ce que sont les ouvertures de la porte des temps. Explorer ce domaine tranquillement à travers des expériences aussi personnelles. Bien sûr, on pourrait faire de la théorie, mais vous savez que quand on a des expériences personnelles vécues par d'autres personnes ou par soi-même, bien, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus illustré que la théorie. Alors donc, je vais dire bonjour à Bonjour de Corse à JT, à Marie-Josée Lorgière, à Viviane Énergie, à Jeff, Damien, bonjour. Evelyne Moreau, bonjour à toute de Belgique. Bien, bonjour à tous. Eh bien, nous allons commencer aller voir un petit peu ces premières choses. Alors oui, la première expérience que je vais vous parler, alors il n'y a pas toujours forcément des illustrations. Il y a de temps en temps des illustrations, mais parfois, bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas forcément tous les moyens que nous avons ici. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il peut exister des portes du temps? C'est-à-dire, il y a eu des séries qui ont illustré ça, Au cœur du temps, par exemple dans les années 70, il y avait la série Au cœur du temps. Il y a pas mal d'autres aussi séries qui parlent un petit peu de possibilité de voyager dans le temps. La physique elle-même théorique actuelle, mais jusqu'à il y a pas longtemps, disait que le voyage dans le temps n'était pas possible. Mais depuis une meilleure étude de la relativité à travers les trous noirs, à travers les trous de verre, montre qu'il y a une possibilité, il y aurait une possibilité théoriquement, on peut voyager dans le temps. Alors, par exemple, je donne un exemple au niveau de la relativité restreinte qui a été mise en place par Einstein. On sait que près d'une masse, quand il y a un objet qui a une grande masse, comme une étoile par exemple, ou aussi une étoile qui s'effondrait sur elle-même comme un trou noir, mais on sait que plus la masse qui courbe l'espace, plus elle est grande, cette courbure, donc si c'est une masse, c'est une étoile géante, par exemple, ou alors si c'est un trou noir, eh bien, on sait que si un vaisseau se déplacerait le long de l'orbite autour de l'étoile ou du trou noir, eh bien, il y aurait une dilatation temporelle. Ça, c'est des équations d'Einstein qui le donnent à ce niveau-là. Donc, il y aurait une dilatation temporelle. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui vivraient dans le vaisseau auraient leur temps ralenti par rapport à ceux qui seraient restés en référence, par exemple, sur une planète. Donc ça, et bien sûr, ceci d'autant plus que vous passez du temps en orbite, bien sûr, autour de l'étoile ou autour du trou noir, mais aussi en fonction de la masse, de la pliure de l'espace-temps, c'est-à-dire plus l'objet est massique et plus l'effet de ralentissement est important. pour ça qu'auprès d'un trou noir, le temps se ralentit. C'était un peu l'objet aussi du film, si vous pouvez le voir, Interstellar, qui a sorti il y a quelques années et qui illustre cette chose-là d'une certaine façon. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de le saisir à ce niveau-là. Maintenant, ça, c'est une façon de voyager, donc ça veut dire qu'il y aurait un décalage temporel à ce niveau-là. Mais bien sûr, c'est irréversible. On ne peut pas voyager, faire des allers-retours. Et dans ce cas-là, les personnes des vaisseaux qui reviendraient vers la planète d'origine auraient un décalage temporel énorme, colossal. Et bien sûr, ça rendrait caduque le voyage dans le temps parce que, bon, ils rencontreraient que leurs lointains descendants, on peut dire, à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce que la physique nous dit. Après, il peut y avoir d'autres possibilités que la physique n'a pas encore, bien sûr, déployées, parce qu'on en est quand même au début de la physique. C'est-à-dire que la physique est quand même relativement jeune comme science, elle a 200 ans à peu près. Donc, c'est rien par rapport à l'évolution. Et donc, on peut estimer qu'il y a d'autres façons aussi de voyager dans le temps. Ça a été aussi bien exprimé à travers La machine à explorer le temps de George Orwell aussi. Hein, si vous pouvez voir, c'est un film. Il y a un ancien film, puis une version un peu plus moderne qui montre aussi quelqu'un qui a inventé une machine à voyager dans le temps et voir un petit peu ce qui peut se passer à ce niveau-là. Alors bon, ça a été illustré au niveau des films, au niveau de la science, au niveau des trous de ver, la science des trous de ver. Ça, c'est pour dire la connaissance. On pourrait aller bien sûr plus loin, mais je ne vais pas vous faire des cours de physique aujourd'hui. À ce niveau-là. Maintenant, voici ce qui s'est passé. Je vais vous raconter tel que je suis. J'ai dit toujours, dans tout ce que je vous dis, rien n'est vrai. Et les choses sont vraies pour moi, parce que je les ai vécues, et que je concevrais très bien que vous ne puissiez pas le croire. Et c'est votre droit, bien sûr, à le plus absolu. Donc, dans tout ce que je dis, rien n'est vrai, mais il est possible que les choses soient comme ça, parce que c'est comme ça que je les ai vécues. Alors, c'était autour des années 2000, je ne me rappelle pas exactement de la date, et j'étais parti faire une exploration, une reconnaissance près d'un endroit dont j'avais lu sur des livres qu'il y avait des choses très intéressantes. Des histoires de templiers, de forteresses templières cachées, de ceci, de cela. Il y avait toute une histoire, mais ce livre, je peux vous le donner le titre à l'époque, s'appelle L'île des Veilleurs d'Alfred Vézin. Dans l'île des Veilleurs d'Alfred Vézin, on parle d'un endroit en Provence qui s'appelle l'île des Veilleurs, justement, qui se trouve dans le Verdon. Et cet auteur donnait de nombreuses informations que j'ai vérifiées par la suite. Donc, j'y suis allé des jours entiers explorer le Verdon, qui se trouve entre le Var et les Alpes d'Haute-Provence. Et donc, j'y suis allé souvent avec mon mentor, Raymond Spinozzi, c'est celui qui a appris toutes ces choses-là. Et ensemble, on a vécu des choses extraordinaires. Mais je vais quand même raconter l'histoire que j'ai vécue moi. Après, on pourra raconter notre jour d'autres histoires qu'on a vécues avec Raymond et qui sont proprement faramineuses, mais c'est comme ça se passe. Et donc, j'étais parti pour faire une reconnaissance, parce que c'était la première fois que je voulais découvrir ces endroits dont parlait Alfred Vézin. Et j'étais parti à l'époque, j'avais mon sac à dos, j'avais une caméra, mais des caméras de 2001, vous voyez un petit peu, hein, j'avais voilà, tout mon barda. Et j'ai laissé ma voiture à un endroit, et avec une carte hygiène, j'avais pu repérer où je voulais aller, et je suis parti. Et j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché. Et j'essayais de me repérer avec la carte, et bien sûr, il arrivait ce qui arrive, je me suis perdu. Et j'ai tourné pendant 3 heures à peu près, à ce niveau-là. Et à un moment donné, bien sûr, j'ai trouvé le bon chemin, qui était vraiment perdu. C'est vraiment quelque chose que si on ne sait pas où c'est, on ne trouve pas. Et là, j'arrive vers, j'avais bien sûr le visu d'origine, je savais quel endroit je devais aller, parce qu'il y avait une photo qui représentait cet endroit dans le livre. Et j'arrive à cet endroit, et je le reconnais, je dis, ça y est, je suis arrivé. Et il faut savoir que bon, j'arrive dans un endroit qui s'appelle la forteresse du Rocher, c'est son nom, la forteresse du Rocher. Et j'arrive dans cet endroit que je ne connaissais pas, et je rentre, c'est tout, c'est structuré, c'est une ancienne commanderie templière, un ancien fort templier, officiellement, hein, c'est officiel, historique, où quelques templiers ont résidé là, dans cet endroit perdu du Verdon. Et donc, je rentre dans cette forteresse, de ce qui en reste, en réalité, bien sûr. Mais le temps menaçait. Le temps, et j'entendais, en réalité, des tonnerres, des bruits de tonnerres. Et là, je me disais, aïe, aïe, aïe. Quand dans le Verdon, il fait des orages, il vaut mieux pas y être. C'est la montagne. Et bien sûr, c'est violent. Et ça peut être dangereux. Et là, je me dis, oh là là, oh là là. Et je sentais les éclairs, vraiment les tonnerres, m'entourer, littéralement les nuages, entourer tout. Et j'ai dit, bon. Et là, je me suis tourné un petit peu vers, je sais pas, vers l'espace et j'ai dit, voilà, pas maintenant, s'il vous plaît. Pas maintenant, parce que là, ça serait vraiment dommageable. Je suis perdu. Là, je suis à plusieurs heures de la voiture. Si jamais il fait un orage là, c'est catastrophique. Et j'envoie une espèce de prière, si vous voulez, une espèce de pensée, comme ça, en disant, en m'adressant, bon, voilà, peut-être, je sais pas, à certaines choses qui étaient autour. Et à un moment donné, c'était vers midi et demi, par là, à l'époque. Et, ah oui, j'ai oublié de le dire. Ah oui, c'est important. C'était le 28 août. C'est un anniversaire. Le jour de la alors, c'est pas la Sainte-Antoine, oui, je crois que c'est la Sainte-Antoine. Oui, je crois que c'est la Sainte-Antoine. C'est non, pardon, pas Saint-Antoine, Saint-Augustin. Voilà, je confonds les deux. J'aime bien les deux. Donc, Saint-Augustin. C'était aujourd'hui, le 28 août à Saint-Augustin, c'est aujourd'hui. Donc, ça fait un anniversaire. Peut-être que ça fait 20 ans, je ne sais pas. Ouais, si c'était 2002, ça pourrait faire 20 ans. Et donc, Saint-Augustin, le jour de Saint-Augustin. Et l'auteur disait dans son livre que Saint-Augustin, ben, c'était un saint qui était important dans le Verdon, pour découvrir certaines choses, certains secrets. Donc, je crois que c'est ça que j'avais choisi ce jour, spécialement. J'avais choisi ce jour pour aller dans le Verdon, parce que vous savez que Saint-Augustin, eh bien, il y avait quelque chose. Voilà, il y avait un mystère, il y avait un secret. Bon, voilà. Alors, vous lirez le livre, vous verrez. C'est défini à l'intérieur. Et donc, j'arrive ce 28 août, et j'envoie cette prière. Et vous me croirez si vous voulez, j'étais sur la forteresse, j'étais clairement sur la forteresse, et les nuages étaient là. Et puis, à un moment donné, les premières gouttes tombent, vous savez, les grosses gouttes là. Et là, vous dites, waouh! Et vous me croirez si vous voulez, j'étais à Manon la forteresse, et bien les gouttes sont tombées à 1 mètre de moi. Comme il y avait une barrière. Et ça s'est arrêté. Là, j'étais sidéré. Et j'ai vu comme l'orage est passé autour. Et comme s'il avait évité le point de la région où j'étais. Il est allé frapper à comme sur Artubit, allé frapper, en tout cas, parce que j'ai su après qu'ils avaient eu un déluge d'eau. Mais l'endroit où la forteresse où j'étais, j'avais demandé, alors, c'est pas moi, je sais pas, hein, c'est comme ça. Donc, l'orage, il y a eu quelques gouttes et ça s'est arrêté. Alors là, j'ai respiré, j'ai dit merci, gratitude, qui que vous soyez, merci de d'avoir évité ça. Donc, j'ai mangé vite quand même, parce que je dis quand même, faut pas tout tenter le diable. Et donc, j'ai mangé et je suis descendu de la forteresse, j'avais vu ce que je voulais, parce que voilà, je voulais découvrir ce lieu, qui était relié aux Templiers, il faut le savoir quand même. Moi, j'aime bien les Templiers, j'aime bien l'histoire des Templiers, ça me fascine cette histoire. Et donc, je descends et je fais le tour de la forteresse vers le bas. Je marque, j'étais jamais allé, hein. Donc je suis comme ça, un petit peu, même pas un sentier, quoi, c'est un truc, et je suis en contrebas de la forteresse. Et à un moment donné, je vois comme une espèce de faille dans le rocher. Et je me dis, c'est incroyable, il y aurait une grotte là, il y aurait quelque chose, parce que j'étais à la recherche aussi de grottes, de passages, quelque part. Parce que dans le livre, on en fait mention. Et donc, je m'approche de cette faille, et non, c'était qu'une faille, en réalité, ça n'allait pas loin. Hein. C'est comme si ça avait été fermé, mais on ne pouvait pas, ce n'était pas vraiment une grotte, c'était une faille. Et dans cette faille, au pied, dans la faille, il y avait un morceau de tuile. C'est une tuile qu'on met sur les toits, mais ancien, très très ancien, pas un morceau de. Parce qu'il n'y a pas de maison, hein. Il y a zéro maison, hein. Mais il y avait un morceau de tuile qui était triangulaire, comme ça, avec un côté un peu luisant, un peu verni. Je prends le morceau de tuile, c'est comme si j'avais une intuition, mais je me baisse et je prends le morceau de tuile, je le regarde, et là, j'ai une intuition, je sais pas, une espèce d'inspiration. Je prends ma salive et je tourne la salive sur la tuile en faisant une espèce d'appel, templier, un appel un peu comme ça. Il existe des appels comme ça. Et je fais cet appel comme ça. Je ferme les yeux. Ça dure quoi? Je sais pas. Je mets ma salive. Je tourne dessus. 10 secondes. J'ouvre les yeux. Et la tuile était sèche. Et là, je me dis, mais c'est quelque chose qui ne va pas. Je viens de mettre ma salive. Il devrait y avoir un peu d'humidité quand même. Là, je suis quand même étonné. Je dis, tiens, c'est curieux ce phénomène. Bon, comme c'était au mois d'août, moi, je dis, bon, enfin, le ciel était toujours couvert, hein. Donc, il n'y avait pas un gros soleil quand même. Hein, voilà. Et donc, et à un moment donné, j'ai l'idée de regarder ma montre. Et à l'époque, j'ai une montre, alors, vous savez, mécanique, hein, on n'en a plus maintenant, hein, mais on me l'avait offert, c'est une montre de famille, En or, elle était en or. Et c'était tout le monde de mon parrain, okay, on s'est fait un cadeau. Et j'ai aimé cette montre ce jour-là. C'est une montre qu'on remonte, vous savez, avec les. Voilà. Et je regarde ma montre, et là, je regarde, je dis, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Il était assez tard. Mais j'ai dit, non, je suis descendu à 2 heures. C'était 2 heures quand j'ai, à peu près, en gros, le temps de manger, de descendre, c'était autour de 14 heures. Et là, c'était, par exemple, presque 16 heures. Je dis, mais il y a quelque chose qui va pas. Curieux. Je regarde ma montre encore. Je dis, ma foi. Je comprends pas. Donc, il y avait un décalage au niveau de l'aiguille de la montre. Je le savais, puisque quand même, je savais bien que je n'avais pas passé 2 heures pour descendre sous la forteresse. Tu mets à la limite un quart d'heure, mais même pas 2 heures. Bon, mais je reprends mon marda et je repars et je refais le chemin à l'arrière. J'arrive à la voiture, je prends la voiture et je vais à Komsortzoubi. Là, c'est là où j'ai appris qu'il y avait eu un orage. À Komsortzoubi, c'est à peu près 15 km de la forteresse. Vous voyez, à vol d'oiseau. Hein. Donc, quelque part, j'arrive à Komsortzoubi, où il y a eu des Templiers aussi, officiellement. Il y a une commanderie templière, où il y a de magnifiques églises, et il reste des églises templières, l'église Saint-André, l'église Saint-Jean, enfin, la chapelle Saint-André, l'église Saint-André, la chapelle Saint-Jean, et Sainte-Philomène, qui est l'église paroissiale. Donc, je me dis, ben, je vais aller, bon, comme je voulais rester la nuit, parce que demain, le lendemain, j'avais rendez-vous à des gens qui venaient me rencontrer à cet endroit-là, eh bien, donc, je vais dormir en haut. Sur un plateau, tranquillement. Et là, ça m'est jamais arrivé. J'avais laissé une deuxième montre à quartz, cette fois-ci, vous savez, une montre à quartz, dans le coffret, le coffre de la voiture. Et puis, d'un coup, j'ai une idée, je dis, putain, je ouvre mon coffret, là, et je prends la montre, et je regarde. Et la montre, elle, quand je compare à la montre mécanique que j'ai pu toucher, il y avait un décalage temporel. Il y a vraiment un décalage. J'ai dit, mais alors c'est bien ça. Il y a bien un décalage temporel. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je me suis mis, j'ai dit, mais je vais calculer ce décalage temporel. Je vais faire le décompte. Je vais voir ce que montre la montre à quartz qui était restée dans la voiture, donc qui n'était pas près de la forteresse. Elle était restée dans la voiture, donc c'était à peu près 2 heures de marche. Donc, je prends l'heure qu'il y avait sur la montre à quartz qui était, je veux dire, la vraie heure, à l'heure normale, et je regarde l'heure de ma montre à aiguille que je n'avais pas touchée. Je regarde les 2 heures, je fais une addition et j'avais 227 minutes d'écart. Alors, le 227 est symbolique. Bon, je ne veux pas m'engager là-dessus. Pour moi, par exemple, 227, c'est un nombre. Par exemple, le 227e jour de l'année, c'est l'Assomption. C'est la fête de Marie. C'est le 15 août, par exemple. Et pour moi, 227 est un nombre. Je ne veux pas en parler maintenant parce que je ne vais pas faire de la symbolique. Mais pour moi, c'est un nombre important. Déjà, j'avais le fait de tomber pile sur 227. Quelle probabilité j'avais de tomber pile sur 227 minutes de décart, et qu'il y avait bien d'écart. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, lorsque j'ai frotté cette tuile et que j'ai fait cet appel, un petit peu, voilà, templier, on peut dire, c'est une vocation templière, parce que vous savez, les templiers, vous connaissez le latin, donc c'est une évocation en latin que j'avais trouvée en faisant des recherches sur les templiers avec Raymond. Vraiment, m'avait donné des informations dessus. Et donc, j'avais essayé ce truc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, j'ai réfléchi à tout ça et j'ai eu d'autres informations qui sont venues. Alors, je ne veux pas vous passer, je ne veux pas vous dire toutes les informations, c'est trop long. Et en tout, voici mon interprétation actuelle, mais c'est mon interprétation, bien sûr. Ça ne veut pas dire que c'est passé comme ça. Mais c'est ce que j'ai interprété à partir des données que j'avais et des données ultérieures. Dans la légendaire du Verdon, dans le légendaire de ce Verdon, de ces endroits-là, il y a des légendes où il y a des portes qui passent entre les dimensions. C'est comme ça. C'est un peu comme dans les films, vous savez, qu'on a vu, il y a des films où les gens portent cette place. On peut penser que c'est de la fiction. Sauf que quand tu le vis, bah, c'est plus pareil. Et donc, je me suis dit, mais il y a eu quelque chose, le temps s'est accéléré. Le temps est passé plus vite. Le fait d'avoir fait ça pendant 10 secondes, c'est un peu comme dans le trou de ver, quand je vous ai parlé tout à l'heure, de la masse de l'étoile ou de la masse du trou noir, qui ralentit ton temps à prendre par rapport au temps normal. C'est comme si j'avais ralenti ou accéléré, on ne sait pas. Donc, je me suis dit, waouh, quelle espèce. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 secondes? J'ai pas du tout l'impression d'aller être ailleurs, j'étais toujours au même endroit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'une porte s'est ouverte? Mon intime conviction, c'est, après, bien sûr, ça fait 20 ans, et j'ai vécu d'autres expériences qui vont dans ce sens. Mais ça, c'est mes expériences personnelles. Voilà. Donc, j'ai sûrement, pour moi, attention, passé pendant 10 secondes, été contact à autre chose, mais qu'il y a eu une modification physique au cours du temps. C'est-à-dire qu'il y a eu l'écoulement temporel n'était pas le même. Et il y a des légendes qui courent sur le peuple, le monde du petit peuple, ce qu'on appelle, ou les esprits de la nature. Il y a plein de légendes en Bretagne et ailleurs qui disent qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles ont été en contact avec ce monde, justement, ont vécu ce décalage temporel. Parfois, très ennuyeux. Parce que moi, c'était 2 heures, 227 minutes, c'est presque 3 heures, mais au plus de 3 heures, en réalité, 3, 4 heures. Mais il y a des gens qui ont vécu dans les légendes, qui est dit, moi, d'après moi, une légende a toujours un fond de vérité, eh bien, il dit que c'était parfois, ce sont des dizaines d'années, si ce n'est pas des siècles. Donc, il existerait, dans ce pays de ces dimensions qu'on appelle Magonia, Jacques Vallée, ce grand chercheur, cet informaticien, qui travaille aussi sur le phénomène OVNI, vous devez connaître Jacques Vallée quand même, eh bien, a écrit un bouquin, justement, Passeport pour Magonia, et il appelle ces mondes, ces autres dimensions, Magonia, comme dans la demeure du petit peuple, c'est-à-dire de tout ce que les gens pensent que c'est les fées, les lutins, les gnomes, tout ça. Mais vous savez, derrière tout ça, il y a parfois des choses. Je crois que c'est que des fadaises. Bon, nous, vous savez que je suis de Marseille, hein, et quand on dit on est fada, ça vient de fade, fades, qui veut dire les fées, c'est-à-dire qu'on voit les fées. Mais peut-être que les fées FEES sont des fées FAITS. Dans certaines conditions. Voilà. Donc, moi, j'ai retiré ça. Donc, premier, le port du temps, j'appelle ça une porte du temps. Alors, il peut y avoir différentes portes du temps, bien sûr, il peut y avoir différents types, mais c'est une expérience vécue par rapport à cela. Donc, deuxième exemple aussi, alors, ça a été, ah oui, un voyage au Pérou. Alors, ça, par contre, j'ai des photos. J'ai quelques photos, puisqu'on a fait un voyage au Pérou, alors, c'était dans les années 2013, je crois. Un voyage où tu allais explorer le Pérou. On l'a fait. Et là, on a vécu des choses extraordinaires, je ne vous dis pas. Bon, là, voilà. Là, je sais, en France, on a des problèmes avec les ovnis, avec le paranormal, mais au Pérou, ça fait partie de la vie de tous les jours. Et comme quoi, sur la même planète, il n'y a pas que Pérou. Hein. Donc, comme le Mexique, le Pérou, dans d'autres endroits. La France est un peu spéciale avec ça. Je veux dire, c'est un des pays les plus retardés par rapport à ça. C'est pas une critique, hein, c'est pas une critique, mais c'est une constatation. Et donc, en réalité, les gens qui vivent la France, un peu les Occidentaux, on peut dire, eh bien, ils sont très retardés avec ça. Ils se croient, ils ont la science, machin, mais dans certains domaines, ils ont pris du retard tellement énorme que lorsque vous allez dans d'autres pays, ce que nous pensons être du paranormal ou de l'extraordinaire, en réalité, les gens le vivent tous les jours. Et pour eux, ça pose aucun problème. Et donc, là aussi, il faut s'interroger là-dessus. Hein. Ils sont pas plus arriérés que nous. Hein. Voilà. Donc, quelque part, il y a cette truc. Et donc, on est allé au Pérou et je vais vous montrer un petit peu l'histoire. Voilà, regardez un petit peu quelques histoires. Je vais venir ici et je vais mettre. Voilà, vous voyez ici ça, cette manifestation-là. Alors, c'est un rapport avec la porte du temps, bien sûr. Cette manifestation, elle a été prise par une personne et on était à Cusco. On était à Cusco, on venait de partir de Lima et on s'était tapé 4000 mètres en avion. C'était, et là, on a vraiment, moi, j'ai ressenti vraiment une gêne au niveau de la respiration. On n'était pas 4000 mètres, on était à 3000 et quelques. Mais c'est vraiment bizarre de sentir comment on manque d'air ou d'oxygène quand on est à cette altitude. Et je me rappelle, c'était l'époque des rameaux. Et le soir, on se traînait hein, dans la ville de Cusco pour visiter un petit peu. Et on est arrivé près d'une église où ils venaient de finir une messe. Et à un moment donné, mon ami, enfin, on était plusieurs, hein, on se baladait. Puis à un moment donné, cet ami, il prend son appareil photo, il a comme une intuition, il photographie le sommet de l'église. On voit ici le sommet, oui, ici. Comme ça, d'un coup. Et il me dit, il m'appelle, il dit, Jean-Michel. C'est bizarre parce que quand j'ai pris la photo, j'ai vu un éclair bleu. Moi, je dis, ah bon? Et on m'a dit, écoute, on va regarder. Et quand on, alors, c'était un appareil numérique, bien sûr. Et quand on regarde la photo, on a vu ça. Ben là, excusez-moi, ça, c'est une photo authentique. J'y étais, ça s'est passé sous mes yeux. On était plusieurs là-haut, et la personne qui a pris la photo est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Je garantis, c'est un ancien, industriel. Donc, il a les pieds sur terre, absolument. Ça ne peut pas être autre chose que la manifestation d'un vaisseau. Vous voyez, ici, en plus, il y a une sphère. Donc, il est sorti de l'église, il est sorti d'où? Est-ce que l'église a créé un passage avec le fait de la messe? Est-ce que le fait de qu'il y ait eu la messe a dégagé une énergie qui s'est ouverte et le vaisseau? Expliquez ça. Est-ce que c'est un hasard? Ça ne peut pas être un hasard. Comment voulez-vous que quelqu'un prenne une photo d'un vaisseau au hasard? Ça s'est duré à une fraction de seconde. Il a été comme reçu une intuition. Il a reçu comme une espèce de signal. Il a oublié ce signal, il a pris la photo. Et à ce moment-là, c'est une des plus belles photos de vaisseau qu'on a eues au Pérou. Ça a vraiment ouvert, parce que c'était le premier jour en réalité. Hein. C'était le deuxième, parce qu'on est arrivé à Lima. Le deuxième jour, ça donnait bien, parce que déjà, on avait une manifestation. Donc, avec une espèce de sphère qui est ici, on la voit bien, vous voyez. Il y a même d'autres choses ici, regardez, c'est vraiment... Et il faisait nuit, hein. C'était comme ça, normalement. Hein. C'était la nuit, parce que je sais que le jour, il tombe très vite à là-bas, au Pérou. C'était vers 6h, c'était vers 18h. Donc, il faisait nuit déjà. Et regardez la lumière. Donc, on ne peut pas dire que c'est des lampadaires. Il n'y a pas de lampadaires, il n'y a rien. Plus chaud, c'est quand même assez un peu rustique. Hein. Bon, voilà. Donc, regardez ça. Donc, est-ce qu'une porte du temps, une porte dimensionnelle, d'où il est venu le vaisseau? D'où il est sorti? Vraie photo, je vous le garantis, particulière. Nous sommes allés aussi, vous voyez, je vous montre. Hein, tout ça, c'est des photos personnelles. C'est des photos que j'ai prises moi, vous voyez. Donc, on est allé sur un lieu qui s'appelle Sigustani, qui était un ancien lieu inca, où les incas faisaient des rituels, parce qu'ils avaient des rituels, ils avaient toute une religion, hein, inca, tout ça. Donc, c'était un lieu initiatique. Et voici un endroit très particulier, il y a un lac, c'est à cet endroit, et certains chercheurs ont posé l'idée que cette plateforme-là, eh bien, ils avaient vu des phénomènes bizarres, étranges, on peut dire ovnis, qui se passaient près de ce plateau, près de ce lac. Donc il y avait une espèce de déformation qui circulait. Et à un moment donné, vous voyez, on voit un peu les gens qui étaient là. Et bien à un moment donné, on est près de cet endroit, ici on voit la lune, vous voyez, on voit la lune, ça c'est la lune. Et on essaie de regarder le ciel pour voir s'il n'y avait pas quelque chose. Et là, mon ami Maxime, c'est lui qui reçoit beaucoup d'informations, vous voyez, il est en train de regarder. Et là, derrière lui, juste derrière lui, regardez ce qu'il y a. Ce n'est pas un moustique, hein. Regardez la distance où c'est, comme ça. Regardez. C'est comme. Donc, il ne regardait pas dans la bonne direction, bien sûr, mais la visite, le visiteur était ici. Est-il passé par une porte du temps? Est-il passé par une porte interdimensionnelle? La photo est là pour vous la montrer. Donc, vous voyez? Là, c'est une autre histoire. Alors, la porte, non, cette porte, je ne me rappelle jamais de son nom parce que c'est un nom un peu quechua. Voilà. C'est une porte. L'histoire, c'est que c'est une falaise, une roche, dans laquelle une porte, on le voit bien, a été sculptée. Il n'y a rien derrière. Hein. Derrière, il n'y a rien. Hein. C'est la falaise. C'est-à-dire que c'est comme une dorsale, si vous voulez. Hein. Et c'est connu au Pérou. Hein. C'est un lieu qu'on visite. Vous voyez, la porte, c'est une porte, mais elle a été sculptée. Mais il n'y a rien derrière. Donne sur rien. Il n'y a pas de construction derrière. Il n'y a aucune construction. Et la légende, c'est que il y a quelques dizaines ou centaines d'années, il y avait une fanfare, c'est plutôt dizaines d'années, une fanfare qui est venue comme ça, et qui a passé la porte. Des gens qui jouaient de la musique, et on n'a jamais revu. Alors, il y a des légendes qui courent comme ça, cette porte-là, eh bien, c'est une porte légendaire où on le tonnerait sur autre chose. Ça, c'est dans la légendaire péruvienne, c'est dans le folklore péruvien. Parce qu'il y a eu des histoires qui se sont passées comme ça. Alors, nous sommes allés là-bas. Vous voyez, on voit ici les Péruviens qui sont là. Donc, et on est venu ressentir, voir ce qui se passait, se positionner par rapport à la porte, à ce niveau-là. Nous voici, vous voyez, on est là. Voilà. Voilà. Et pendant que... Alors, il y avait des Péruviens qui nous faisaient... vous savez, les Péruviens font des rituels. Hein, c'est, chez eux, c'est normal. Chez nous, c'est toujours pour regarder de travers. Mais chez eux, c'est normal. Donc, il y avait une espèce de rituel de purification chamanique. On peut dire, c'était du chamanisme péruvien, hein, à ce niveau-là. Et une amie prend la photo. On est devant la porte, là. On est exactement devant la porte. Il prend la photo. Et en regardant la photo, ce qui est ici, vous voyez, moi, un point jaune. Regardez ce que c'était. Un vaisseau. C'est pas une mouette. Hein. C'est un vaisseau. Donc, regardez, deuxième porte, c'est une porte du temps. Dans le légendaire péruvien, c'est une porte du temps. On est là, on y est resté 3 heures quand même, hein. Quand même quoi, 3 heures. Il y avait des crânes de cristal, il y avait des crânes de cristal, faut pas le, oui, ils sont là, les petits crânes de cristal, il y en avait quelques-uns. Eh bien, il y a un visiteur qui est venu, la personne a pris la photo, elle l'a pas vu, hein. Elle a pris la photo pour prendre les gens. Mais quand on a regardé la photo après, il y avait un vaisseau ici. Y a-t-il une corrélation? Y a-t-il une corrélation? On se pose la question, d'accord? À ce niveau-là, ce sont des faits. Là, on ne peut pas le nier. On ne peut pas dire que c'est autre chose. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de saisir. Donc, vous voyez, j'ai pu illustrer d'autres photos que j'ai prises au lac Titicaca. Regardez, c'est moi qui ai pris ces photos. Quand je dis c'est moi, ce n'est pas pour l'ego. C'est simplement pour vous dire que ce n'est pas une autre personne. Donc, je suis sûr de mes photos. Donc, vous voyez, les vaisseaux au-dessus du lac Titicaca. Donc, vous voyez, et encore un, hein, ici, oui, c'est, on le voit ici. Hein. Je vous rends, ce n'est pas des oiseaux, hein. C'est des vaisseaux, c'est clair. Oui, voilà. Là aussi, par exemple, une fois, on a fait une sortie près d'un lieu en Provence, près d'un lieu très particulier où il y a des structures étranges, où il y a des possibilités de porte du temps. Ben, regardez, juste après la visite, paf, dans le ciel, c'est un vaisseau. Oui, voilà. Donc ça a été un peu quelques exemples que je vous ai donnés par rapport à tout ça. Je reviens un peu vers vous. Hein. Si vous avez des questions. Alors, bonjour à toute Belgique, j'adore le décor derrière toi. Ah, oui, j'ai mis un peu les montagnes. Ça rafraîchit. Voilà. Bonjour à Richard, Augustin. Oui, Augustin, c'est ça. Bonjour de Marseille. Ah, super. Bonjour du grand changement. Loi du 1, rat. Oui, super, merci Eric. En guématrie de 127, minute égale 329, 319. Mais il faut les trouver des correspondances. Alors, qu'est-ce que le point oméga? Mais le point oméga, c'est, vous allez voir, attendez, j'ai pas fini la conférence quand même. Le point oméga serait-il pas une porte temporelle finale? Vous pouvez imaginer, rappelez-vous, on est ici dans d'autres sphères, on est sorti. On peut imaginer un jeu, imaginons un jeu. On joue un jeu particulier. Ou on fait un film, par exemple. On fait un film, un scénario d'un film, voilà, par exemple. Ou un jeu. Et dans ce jeu, il faut trouver des portes temporelles, les étudier et voir qu'est-ce qui se passe. Et le point oméga, est-ce qu'on ne pourrait pas suggérer que ce serait une porte temporelle finale où l'humanité peut passer à travers? Est-ce que c'est possible d'imaginer ça dans le cadre du jeu et dans le cadre du film, bien sûr, hein? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y aurait un point oméga, c'est-à-dire un point passé lequel l'humanité passe une porte quelque part et il se passe quelque chose? Pourquoi pas? Il peut faire un scénario d'un film. Les films, vous savez, il y a des scénarios. Donc, on peut se poser la question, est-ce que le point oméga ne serait pas l'ultime porte temporelle? Pour répondre à la question. Maintenant, le point oméga, 265, 329, vous voyez, il y a un lien, 227 minutes, eh bien, c'est la valeur alpha, on peut dire c'est la valeur alpha de 227 minutes, c'est-à-dire 227 minutes, si on écrit en guématrie, en alpha, ça fait 329. Et Jean Toussaint, qui est un expert, et je le remercie tous les jours de tout ce qu'il fait, parce que c'est quelqu'un qui m'envoie des guématries de fou furieux, je les étudie, et ça m'aide beaucoup dans mon travail. Je remercie Jean Toussaint de cela. Eh bien, Jean Toussaint, il vient de calculer tout de suite, il dit, mais 227 minutes, ça fait 329 en alpha, 319 en oméga. Eh bien, si on pose la question, qu'est-ce que le point oméga? Ben, c'est 265 en alpha et 329, donc, en oméga. Ça voulait dire que 227 minutes sont reliées au point oméga. 227 minutes. Peut-être que c'est le code de 227, pas forcément minutes. Ça, c'est le temps que j'ai passé, dans l'expérience. Mais le code de 227, est-ce qu'il serait pas relié au point oméga? C'était à l'ultime porte temporelle. C'est la question qu'il faudrait se poser. Vous voyez, on a un début de recherche à ce niveau-là. Bien sûr, il faut étudier la symbolique de 227 et tout ce qui tourne autour de 227. C'est une grande étude à faire. Estra, de voir des vaisseaux. Oui, on en voit souvent des vaisseaux, vous savez. Souvent, les gens ils croient que c'est quelque chose de très rare, pas du tout. Chez nous, je vais vous présenter des centaines de photos de vaisseaux qui ont été prises par des personnes qui sont sur le terrain, des personnes comme vous et moi, avec leur appareil. Des vaisseaux, là, récemment, il y en a eu des magnifiques à Marseille, pas loin de Marseille, près de Marignane. Une personne est allée travailler sur un site, il s'appelle Pierre. Et là, il a fait un ressenti, pris d'une chapelle, puis on a eu une intuition, il a pris le ciel, il a dit, tiens, magnifique vaisseau qui est juste là. Ils sonnent de plus en plus là. Ce n'est pas de faribole. Ce sont des faits. Je peux vous montrer la photo. Il y a nos problèmes. Oui, tout ce que je vous dis, je vous montre les photos. Donc, je n'invente rien. Mais c'est comme ça. Voilà. Voilà. Alors, bonjour du Mexique. Ah, ben alors là, le Mexique, alors là, le Mexique. Là, je ne sais pas, mais tu habites au Mexique, mais le Mexique. Les ovnis, normalement, ils connaissent bien. Hein. Voilà. Donc, oui, à différence des autres pays. Nous sommes allés aussi au Mexique. Nous avons fait un voyage en 2014 par là. Et là aussi, on a eu des expériences de fous furieux. Le Mexique, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il y a plein de choses au Mexique. Donc, vous voyez, tout ça existe et il faut sortir de la France. Puis non, en France, on les a aussi. Mais on n'en parle pas, quoi. C'est pas dans le discours. Hein. Au contraire, ça n'existe pas, ça ne va pas exister. Blablabla. On se met là-dedans. Et voilà. À Cancun, c'est magnifique. On a visité Cancun. C'est très, très beau, Cancun. Ouais, c'est magnifique. Donc, vous voyez, en changeant de territoire et en changeant d'esprit aussi, eh bien, il y a des personnes pour qui l'important pour elles, c'est normal, ça existe. Et puis, il y en a d'autres qui disent non, ça, c'est la fiction, c'est les films. Vous voyez, sur la même planète. Et moi, je vous garantis, les expériences qu'on a vécues avec les personnes dans les voyages, c'est exact, c'est comme ça que ça marche. S'il y a des portes, il y a des vaisseaux. On les a pris en photo, on a vécu. Et je vous dis, je ne peux pas renier ça. Maintenant, si vous avez du mal à croire ça, je sais. C'est pour ça que je vais essayer de vous montrer quelques photos, quelque chose. Mais tant que vous n'êtes pas confronté au phénomène, ben, vous aurez des doutes. Ça, c'est compréhensible. Il n'y a pas de jugement derrière ça. Mais simplement, ben, voilà, si vous voulez vraiment être en contact avec ces choses-là, ben, il faut aller dans les endroits où il y a, et puis dans les pays aussi, et ainsi de suite. Voilà, parce que, voilà. Vous s'y intéresser, hein. Voilà. Donc, c'était la deuxième idée dont on a vu, donc, dans le Verdon, avec la forteresse, le rocher de la forteresse. On a vu au Pérou. On a vu au Pérou avec cette porte-là, dont je ne me rappelle pas le nom, parce que c'est un nom, chaque fois, c'est assez compliqué. Mais, et aussi à Cusco, on a vu, et on a vu aussi ailleurs. Voilà. Tout, c'est là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres possibilité. Oui, bien sûr. On va approcher la porte du temps d'une autre façon. Alors là, c'est tout un dossier qui est apparu sur Top Secret. Je crois que c'est le numéro 111, si je ne me trompe pas. C'est peut-être pas celui-là, mais il y avait un Top Secret qui parlait de la découverte d'une porte du temps par un monsieur qui vit là-bas. Près de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, dans l'Aude. Vous savez, des endroits où il y a la Bessonnière, le fameux curé au milliard. Ça, les gens connaissent bien l'histoire de Rennes-le-Château. C'est quand il y a une question d'argent, on connaît mieux. Et donc, il aurait trouvé un trésor à la fin du 19e siècle. Et donc, ça fait couler beaucoup d'encre, il y a beaucoup de chercheurs. Et moi, j'y vais régulièrement là-bas, pas pour le trésor, hein, mais pour ce que j'aime bien le lieu, et puisqu'il y a des choses mystérieuses, parce qu'il y a des endroits mystérieux. Et dans ce Top Secret, la revue Top Secret par Oxopierre, vous connaissez peut-être, mais dans ce numéro de Top Secret, il y avait justement un article qui va parler de la découverte d'une porte du temps à Rennes-les-Bains. Alors, ça m'intéressait, bien sûr. J'ai lu le dossier, c'était quelqu'un de sérieux. Dedans, c'était bien étayé, il y avait des cartes, et la personne raconte une histoire qui lui est arrivée. Alors, c'était un chercheur qui habite à la région, donc il connaît bien la région. Et pendant un hiver, alors je ne sais plus lequel c'est, donc un hiver, je vais être au mois de novembre, voilà, il va promener son chien dans la forêt de Rennes-les-Bains, une forêt bien mystérieuse, bien particulière, où il se passe des choses. Moi, je ne me lasse pas d'aller là-bas parce que je découvre toujours des choses extraordinaires, près de Rennes-les-Bains dans l'Aude. Et donc, dans cette forêt, il se balade tranquillement et avec son chien. Puis à un moment donné, ben, il regarde un peu par terre comme ça, comme on fait d'habitude. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il sent quelque chose qui arrive, il lève les yeux, il voit un gars avec un chapeau, vous savez, genre un chapeau Indiana Jones, et un truc, avec une espèce de manteau, imperméable qu'on trouve dans les films, vous savez, un peu, vraiment, on ne voyait pas son visage, assez grand, et le gars, il passe devant lui, il ne le calcule même pas. Il le traverse comme ça, devant lui. Alors, il est un peu estomaqué, il cherche son chien, parce que. Puis, le temps de relever la tête, le gars, il disparaît. Alors, il est quand même étonné. J'ai dit, mais d'où est sorti celui-là? Parce qu'il n'y a plus de chemin, normalement. Dans l'endroit où est venu le gars, il n'y a pas de chemin. C'est vient de la colline direct. Oui, et puis il y a des herbes, il y a des pierres, tout ça. Non, il y a ce petit sentier. Lui, il était sur le sentier. Le gars, il est venu perpendiculaire. Donc, il n'était pas sur le sentier. Et puis, la vitesse où il descendait, généralement, moi, je parcours ces endroits, je vous garantis, vous allez doucement, hein, parce que vous pourriez essayer de glisser, tomber. Donc, le gars, il a traversé comme ça. Alors, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et il se met, bon, il rappelle son chien. Mais comme c'est l'hiver, enfin, c'est l'hiver, l'automne, là, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de feuilles. Et on voit bien loin de la forêt. Parce que l'été, non, parce qu'il y a plein de feuilles. Et donc, il voit quelque chose au-dessus. Il se dirige. Et là, il va voir deux structures en pierre qui sont présentes. Et je vais montrer des photos. Alors, moi, j'y suis allé, on va raconter plus tard. Mais je vais montrer des photos qui ont été montrées dans la revue. Il a pris des photos de cet endroit. Je ne sais pas s'il venait de l'au-delà. Je ne fais pas de supposition. Moi, je vous mets des faits. Je vous mets des faits, hein, comme des faits FAITS. Les faits, c'est FAES, c'est de l'au-delà. Je n'ai pas dit qu'il venait de l'au-delà. Je vous dis, c'est son témoignage. Peut-être. C'est quoi l'au-delà? Qu'est-ce qu'on appelle l'au-delà? Oui, c'est la question que vous vous posez, parce que l'au-delà, c'est là. Hein, l'au-delà. Les Celtes appelaient ça l'autre monde. Oui. Est-ce qu'il venait d'où? On ne sait pas. Alors, donc, on va voir ces photos, quand même, pour voir, quand même. C'est intéressant de voir les photos. Si vous pouvez vous procurer la revue, ben vous pourrez relire l'article. Alors ça, c'est mon truc, ça ne me sert pas. Non, excusez-moi, je vous connais petit parce que c'est sur le même diaporama. Voilà. Eh bien, tiens, j'ai l'article pour mon voisin. Ben oui, là, tiens, vous avez la chance. Je ne me rappelle plus. j'ai l'article, voilà. Donc, c'est pas 111, c'est 63. Bugarage nous a retrouvé la porte du temps. Oui, c'est un numéro. Donc, pouvez-vous le procurer peut-être et vous aurez l'article entier. Moi, je vous conseille. Vous pouvez, top secret. Alors, bien sûr, il a des années. C'était, je ne sais plus quelle année. C'était 2012, je crois. Oui, il date de 2012. Et donc, vous voyez, on voit l'article. Alors, monsieur s'appelle François Garret. Voilà. Oui. Et là, il parle plein de choses. Il connaît bien la région. Il parle des choses bizarres qu'il y a dans la région, des pierres particulières. Et voilà. Première photo étrange menhir sur la colline du Cerbayrou avec une forme de porte arrondie incrustée. Est-ce l'empreinte laissée par le vortex spatio-temporel? Parce que d'après lui, la personne est descendue de cet endroit. Comme c'était face à où il était, il a regardé la trajectoire du gars. Il n'y avait que ça au-dessus. Donc on voit une espèce ici de, voyez, comme ça avait été découpé dans la roche. On voit bien clair, ça c'est pas naturel. C'est clair, voyez, là. Et de l'autre côté, il y a ça. Si ce n'est pas les deux montagnes d'une porte, excusez-moi. Oui, vous voyez. Deuxième photo, dans le prolongement du premier menhir, apparaît en alignement un autre bloc qui a exactement la forme de la porte incrustée. Le roc semble avoir brisé en deux comme le roc dans lequel était emprisonnée la lame de l'épée magique Excalibur, autrement connue sous le nom de Durandal. Vous voyez. Donc ici, c'est comme une porte. Est-ce que la personne est passée, comme dit notre ami, de l'au-delà. Et il s'est manifesté. En physique quantique, on dit qu'il a fait la décohérence de phase. Il s'est manifesté en passant la porte. Mais l'idée, on ne sait pas. On peut supposer que la porte s'est ouverte à ce moment-là ou qu'il savait l'ouvrir et qu'il est passé d'une dimension à l'autre. On va dire d'une dimension à l'autre. C'est une explication. Oui, voilà. Bon. Donc, et voici un schéma qu'il a fait pour expliquer le phénomène. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que c'est mieux que vous achetiez le truc et vous le lisiez vous parce qu'il y a plusieurs pages et c'est très, très bien fait. Et donc, je rappelle, top secret numéro 63. Eh bien, vous lirez tout ça. Et c'est bien étayé. Il y a de la géométrie sacrée. Il y a tout ça. Vous voyez, la portée. Donc, je vous laisserai découvrir l'article tranquillement à ce niveau-là. Bon, après, voilà le monsieur, il est là. Voilà. Oui, après, il y a d'autres choses dans la forêt de Rennes-les-Bains, mais ça, j'en parlerai une autre fois. Donc, vous voyez, très étrange, cette porte. Encore en fait, alors bien sûr, c'est le monsieur qui la raconte, tu n'es pas obligé de le croire, bien sûr. Ok. Moi, j'y suis allé. Et ça fait des années que j'allais à Rennes-les-Bains. Je n'ai jamais vu cet endroit, je n'avais jamais cherché. Et à un moment donné, croisement des dimensions, vivienne énergie, Oui, c'est possible. On peut émettre que des hypothèses, bien sûr, mais des hypothèses cohérentes avec ce qui se passait. Alors, je vais raconter la suite. Je me suis dit, nom de mon homme, il faut quand même que je la trouve. Et il n'y avait pas beaucoup d'informations, je vous dis, hein. Je connaissais la forêt de Rennes-les-Bains et je me dis, mais comment je vais faire? Alors, à ce moment-là, au mois d'août de l'année 2000, voilà, c'est là, j'étais avec un groupe de personnes. Et nous sommes allés à un endroit dans la forêt de Rennes-les-Bains qui s'appelle Good Hill, la bonne montagne, c'est le nom qui est donné. Le colline s'appelle Good Hill et qui fait partie d'un des endroits de la carte que vous avez vu tout à l'heure. Good Hill. Et là, il y a une structure avec des roches très particulières qui ressemblent comme un cheval. C'est curieux. C'est bizarre. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Il faudrait des heures et des heures pour raconter pourquoi c'est bizarre. Mais on y sommes allés là, voilà, pour manger. Passer un moment dans cette ambiance particulière, Good Hill, un endroit très particulier de la forêt de Rennes-les-Bains. Puis à un moment donné, je parle et je dis aux gens, vous savez, les personnes, les amis qui m'accompagnaient, je dis, vous savez, je voudrais trouver un endroit et je leur parle, je leur montre la revue. Je leur dis, voilà, il y a ça, comme je vous ai fait là. Je dis, mais voilà, est-ce que vous voulez qu'on cherche ensemble? Parce que je pense que c'est un endroit important à trouver. Je sens qu'il y a quelque chose. Ben, ils me disent, ouais, c'est comme un jeu, on va s'amuser. On va faire les explorateurs, on va chercher. Donc j'avais une cartésienne, j'avais fait un peu des repérages sur la carte. J'ai dit, écoutez, voilà, d'après moi, c'est à peu près par là. OK. Et donc, on part, on marche comme ça tranquillement dans la forêt. Puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, on va prendre cette bifurcation, là, comme ça. Et on part, on monte, et on arrive dans une espèce d'endroit où je ne sais pas ce qu'ils avaient fait, ils avaient rasé tous les arbres. Je n'ai jamais su ce qu'ils avaient fait, c'est un peu comme si une bombe avait explosé. Tous les arbres étaient rasés, ils étaient tombés. Il y a du bulldozer qui sont venus, je ne sais pas. C'est bizarre. D'habitude, ce n'est pas comme ça, mais bon. Et là, je lui dis, mais écoutez, on va se séparer et on va se donner une heure. Voilà, vous avez vu la photo? Vous avez vu à peu près la photo de ce que c'est qu'on cherche? Allez, ouais, c'est un peu Indiana Jones, c'est un peu comme dans les films, hein? Mais c'était vrai. Hein? Donc, les personnes partent et au bout d'une heure, on saura ça, on dit non, on n'a rien trouvé. Ça ne correspond pas. J'étais un peu déçu. Et surtout qu'on avait un peu du chemin à faire et qu'il faisait un peu plus. C'était en fin d'après-midi, j'ai dit bon. Mais j'ai lâché prise. J'ai dit bon, ben, tant pis. Voilà, j'aurais vraiment voulu trouver la porte d'abord pour les gens et pour moi. Donc, on part, on va prendre le chemin de retour, on va passer dans la forêt. Hein, et on marche, on marche, on marche tranquille, comme ça. Et dans ma tête, j'étais là, je dis quand même, j'aurais bien aimé trouver la pierre. Hein. Et puis, d'un côté, je disais, lâche prise, ben, c'est pas là, tu ne vas pas la trouver ce jour-là, c'est pas grave. Mais voilà, j'étais un peu partagé entre tout ça. Puis, à un moment donné, je vais vers, tu vois, comme si je me parlais au fond de moi, je dis, tu sais, ce serait bien que tu trouves la pierre quand même. Comme j'ai appelé une espèce d'ami intérieur, vous voyez, quelque chose qu'il a. Je dis, tu sais, ce serait bien que tu trouves la pierre. Bon. Mais je m'amusais, quoi. Je me parlais comme les enfants parlent à un ami, tu sais, un ami invisible. Je jouais à ça. Puis à un moment donné, je m'arrête. J'étais au début, hein, au début de colonne, quand je montrais le chemin. Vous. Mais avant que je m'arrête, vous allez croire si vous voulez. Hein. Genre là, je. C'est pas pour rien. Moi, je l'ai vu. Je marche comme ça, je marche. J'avais les yeux ouverts, hein, et je n'avais rien bu. J'avais bu de l'eau, du café, et j'allais manger. Donc, ce n'était pas de problème. Et d'un coup, devant mes yeux, les yeux ouverts, surexposés, je vois comme une espèce de flèche. Une grosse flèche, vous savez, flèche, pour moi, dans les dessins animés, un peu bleu, bleu, pastel. Grosse flèche qui flotte comme ça. Là, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est ça? J'ai un peu l'habitude d'avoir des visions. Parce que bon, c'est mes activités, j'ai développé cette capacité, comme tout le monde peut développer des capacités, hein, c'est rien de particulier. Hein. Mais je vois cette flèche flotter, passer devant moi, bleue, vraiment, ça n'a rien à voir avec la forêt, et qui va vers la gauche. Et là, d'un coup, je me dis, non, quand même. Et au fond de moi, j'entends une voix disant, oui. Alors, je ne peux pas aller voir les gens et leur dire, vous savez, j'ai vu une flèche bleue qui traverse là. Je vous le dis à vous, parce que ça fait 10 ans que ça s'est passé. Ouais, 10, plus de 10, ouais, moins 10 ans, 9 ans, ça s'est passé, donc ça va. Mais à l'époque, je n'aurais pas dit aux gens. Bon. Alors, je lui ai dit, écoutez, les gars, bougez pas, je vais m'isoler, je suis obligé de partir sur la colline, je reviens dans 2 minutes. Et je lui ai dit, OK, il faut une pause. Et moi, je monte à la colline, je vais dans la direction de la flèche, m'avait indiqué. Je monte comme ça. J'arrive et puis là, bon, je fais ce que j'ai à faire parce que bon, je m'étais isolé vraiment, j'avais besoin de faire quelque chose. Je le fais. Et je me tourne comme ça pour repartir. Comme ça, je tourne sur moi, pour redescendre. Et là, devant mes yeux, qu'est-ce que je vois? À 5 mètres, la pierre était là. J'ai reconnu, puisque j'avais les photos. Je dis, non, c'est pas vrai. Je ne crois pas, comme disait Luke Skywalker avec Maître Yoda. Il dit, mais je ne peux pas le croire. Il a dit, oui, c'est pour ça que ça n'a pas réussi. Donc, et là, je me dis, waouh, mais c'est incroyable. Oui, Vivian nous dit, la flèche bleue t'a montré le lieu à voir. C'est ça. Mais ça fait bizarre quand même, hein, parce que ça ne s'attend pas. Hein, bon, voilà. Donc, je descends, je vois les gars, je dis, écoutez, j'ai trouvé l'endroit. Je n'aurais même pas dit pourquoi, comment. Hein. J'ai dit plus tard. Et donc, je dis, ouais. Et là, on est tous allés. Et bien sûr, c'était là. Alors, on a prospecté, on a regardé, on s'est remémoré tout ça. Et on a fait un ressenti pour voir si ben, on sentait quelque chose. Bien sûr, la porte n'est pas ouverte. Elle s'ouvre quand il y a des conditions particulières. Parce que mon interprétation, attention, mon interprétation, c'est que c'est une porte à effet physique. C'est-à-dire que si tu la franchis, ben, tu te trouves ailleurs et tu n'es pas sûr de revenir. Parce que peut-être qu'il y a des conditions pour refranchir la porte. Tu ne sais pas. C'est un peu comme dans le film Stargate, où il y avait pour aller de la Terre à un autre endroit, il fallait des 7 codes. Mais de l'autre endroit pour venir à la Terre, il fallait 7 codes et il n'y en avait que 6. Je ne sais pas si vous avez vu le film Stargate. Et à un moment donné, un des codes était perdu. Il a fallu le retrouver. Ou sinon, ils étaient bloqués. Ils ne pouvaient pas ouvrir la porte. Donc, je peux estimer que les portes, ça ne se franchit pas comme ça. Et qu'il y a des conditions. Et si jamais tu franchis la porte physiquement, tu peux te trouver ailleurs. Et il y a eu plein de cas comme ça. Si vous prenez, il y a eu des centaines de récits de personnes qui se sont trouvées dans ces situations-là. On pourrait faire une mission là-dessus, si vous voulez. On a des cas réels, frais, et pas perdus dans la Cambrousse, hein, dans les grandes villes aussi. Mais je me suis dit non, non. Alors, bien sûr, on n'a pas cherché à ouvrir la porte, on a cherché à ressentir ce qu'il y avait. Et on a été très contents, parce qu'on avait vécu une aventure extraordinaire. On avait trouvé la porte avec cette flèche bizarroïde qu'il avait traversée. Donc, vous voyez, ça, c'est très étonnant comme chose. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça m'est arrivé comme ça? Voilà, hein. Voilà. Donc ça, c'est une porte du temps, qui s'ouvre de temps en temps. Bien sûr, on n'a pas les clés. Hein. On n'a pas les clés. Alors après, on pourrait étudier le comment ouvrir la porte. Mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Parce que je vous ai dit, c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, on n'est pas prêt à ça. Bon, on peut toujours profiter de. Parce qu'il y a toujours un peu des vibrations, des fréquences. Hein. C'est pour que dans Stargate, dans la feuille de Stargate, quand on ouvre la porte, bien, il y a des fréquences qui se mettent. On peut ressentir ces fréquences pour certaines personnes, mais l'ouvrir, je ne conseille pas. Voilà, donc c'est une porte du temps, et peut-être, est-ce que c'est un des secrets de la Bessonnière et de l'abbé Boudet, de cette région? Peut-être, est-ce que c'est un des secrets? Peut-être que l'abbé Boudet, qui vivait à Rennes-les-Bains, qui était le curé de Rennes-les-Bains et qui était le mentor de la Bessonnière, celui qui avait trouvé, soi-disant, le trésor, eh bien, est-ce qu'il connaissait le secret de la porte du temps? On peut se poser la question. Voilà, donc vous voyez, on pourrait raconter comme ça, je vais raconter plusieurs histoires, donc je vous ai montré les photos. Je voulais vous montrer, si vous voulez, une dernière fois, allez, pour vous plaisir maintenant, la porte du temps, comme ça vous verrez mieux. Ça, avec du recul, c'est mieux. Hein, si on voit ici, voici la porte du temps, telle qu'elle est, ici, cette diapo sera mieux. Voilà, ici, voilà. Ah, tenez, il est revenu. Bon, il est revenu, donc il faut que je retrouve mon truc. Tenez, voilà, je l'ai retrouvé, c'est un peu déplacé. Je n'ai pas fait attention. Attends, voilà, 2 secondes, voilà, but d'arrache. Voilà, ici. Bon, on le voit comme ça. Voilà, vous voyez, la porte du temps est ici. Donc, il y a bien un truc physique. Ça, c'est indéniable. Et il y a encore, hein, je vous dis. Voilà. Donc, c'est vraiment là. Voilà, vous voyez, c'est plein de trucs mystérieux. Les portes du temps existent. Maintenant, bien sûr, le mécanisme d'ouverture. Voilà, il y a peut-être des choses à dire. C'est un peu comme la magie, c'est un peu Harry Potter, quoi. Peut-être vous pouvez. Je ne sais pas. On peut imaginer tout ce qu'on veut. C'est un motif de la réflexion, mais on ne peut pas dire que ça n'existe pas. On ne peut pas dire que ça n'existe pas, puisqu'il y a des traces. J'ai raconté 3 histoires. D'accord? 3 histoires, et pour en raconter d'autres. Hein, voilà. Donc, à ce niveau-là. Donc, je reviens vers vous. Reste avec nous pour continuer à nous conter tes explorations. Bon, tenez, je n'ai pas des tonnes non plus. Hein. Il y a plein d'autres. Il n'y a pas que des portes du temps. Hein. Il y a d'autres histoires, il y a d'autres phénomènes, parce qu'après, ça peut interagir, Il y a les portes du temps, mais il n'y a pas que des portes du temps. Il y a aussi des portes dimensionnelles. On passe d'une dimension à l'autre. Ce n'est pas forcément aussi du temps. Il y a le temps et l'espace, l'espace-temps. Donc, en réalité, il y a ces histoires-là. Moi, je vous dis ça pour que votre esprit puisse être informé que ça existe. Maintenant, je ne sais pas ce que vous allez faire avec ça. Bon, peut-être, voilà, c'est simplement. Mais je vous raconte tel que je l'ai vécu et tel que des personnes qui étaient avec moi, parce que des personnes, ils l'ont vu. Nos problèmes. Et dans tous les cas, à part la première expérience, j'étais seul. Mais aux gens, les autres, ils étaient là. Il n'y a pas de problème. Donc, c'était collectif. C'était des aventures collectives. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'on s'est bougé, parce qu'on a fait des voyages, parce qu'on y va, parce qu'on fait des recherches. Vous voyez, c'est pas comme ça tout seul. Il y a pas de la chance derrière ça. Il y a simplement le fait qu'on fait un travail et qu'il y a un résultat. Le fait aussi d'intention, de pensée positive. C'est tout ça qui fait que ça se manifeste. Bien sûr, si je reste chez moi, assis sur mon fauteuil avec des pensées tristes, découragé, tout ça, c'est sûr qu'il y a moins de chance que je rencontre cette force dimensionnelle et pas du temps. Donc c'est une espèce de comportement, d'un état d'être, si vous voulez, qui est par rapport à ça. Alors, le dernier volet que je veux vous parler, ici, c'est les dernières découvertes qui se sont passées cet été. Ça s'est passé autour du 20, 21 et 22 juillet. Alors, je vais vous parler. C'est encore extraordinaire. Mais c'est comme ça. C'est des données. Alors, on y va. Hein. Je vais vous montrer ces données-là. Alors, il faut que je cherche quand même ma documentation. Attendez, j'ai préparé quelque chose. Voilà. Alors, je reviens vers vous et je partage l'écran parce que j'ai trouvé ce que je voulais. Je vais charger le point. Voilà, je ne peux pas me tromper. Et je vais vous montrer cela. Voilà. Voici une carte que Raymond, Maxime a fait récemment. Alors, vous connaissez mes travaux, hein, ça fait des années, ça fait plus de 6 ans que je fais des conférences, une voix conférence sur LGC5, j'ai montré des milliers et des milliers de diapos. Vous savez qu'on travaille avec des sommets de montagne, et notre dada, c'est de relier les sommets de montagne entre eux, sous la forme d'une intuition, un petit peu comme l'intuition de la flèche que j'ai eue. Eh bien, il y a des personnes, comme Maxime, il s'appelle Maxime, qui voient, eux ne voient pas une flèche, ils voient un dessin, et ils le reproduisent, en reliant des sommets de montagne entre eux. Ici, on est en Provence, c'est la Provence. Et en reliant des sommets de montagne, il a dessiné la planète Terre 2 fois. Il a dessiné un tube, ce qu'on appelle un trou de ver. Et l'idée, c'est que la planète Terre pourrait passer à travers le tube. Un gigantesque tube. Alors, ce n'est pas un trou noir, rassurez-vous. Ça s'appelle un trou de ver en science. Donc, la planète pourrait passer à travers un trou de ver. Et c'est récent, ça. Ça a à peu près un mois et demi. Et ça voudrait dire quoi? Mais d'après nos recherches, et pour l'instant d'après nos recherches, ça pourrait être relié à un phénomène de transition de dimension, comme à la porte du temps. C'est-à-dire que la planète là et la planète là ne sont plus dans les mêmes dimensions, mais ce serait global. Au lieu que ce soit local, comme on peut dire à Dalverdon, comme à Cusco, ou dans la porte temporelle, où j'ai parlé tout à l'heure, ou comme tout à l'heure dans Rennes-les-Bains, eh bien imaginez planétaire. Pourquoi pas? C'est simplement le principe, une fois qu'il existe, la dimension n'importe quoi. Imaginez que dans ce film, dans cette légende, eh bien, la planète entière puisse passer à travers ce trou du temps, ce trou du ver, et apparaître de l'autre côté, peut-être dans un autre temps, ou dans un autre espace, ou dans une autre conscience. On peut imaginer ça. Mais ça ne peut pas se nier, parce que c'est du concret. C'est clair, si on vérifie tout, il y a des sommets de montagne à chaque endroit, donc c'est un petit peu comme les portes que je vous ai montrées tout à l'heure, elles existent, les montagnes existent, ça, et la carte existe. Donc ça c'est du côté de Sisteron, ça c'est du côté de Saint-Maximin à Sainte-Bombe, où il y a la basilique de Sainte-Marie-Madeleine, vous savez, où il y a le tombeau de Marie-Madeleine, mais c'est dans cette région-là. Donc vous voyez, on passerait ici de Sisteron, voilà, Sisteron, la ville de Sisteron dans le 04, et on arriverait à Saint-Maximin à Sainte-Bombe, du côté de d'Aleva. Ça ne veut pas dire que ça va se faire là, dans cet endroit-là. C'est seulement pour situer les endroits. Mais ça ne veut pas dire que la Terre va passer à ces endroits-là. C'est un schéma de principe. Donc, on appelle ça un changement de dimension. Un changement de conscience aussi. On peut imaginer que la Terre n'aura pas la même conscience ici que là. On peut imaginer plein de choses. Quelles sont les propriétés d'un trou de ver? Qu'est-ce qui se passe quand quelque chose passe à travers un trou de ver? Vous voyez? La physique peut-être aurait des réponses à ça. Mais ici, on met en scène la planète entière. Donc, voilà, c'est question de grandeur. Et juste après, eh bien, il a reçu une autre carte, toujours dans la même région. Et là, les montagnes écrivent quelque chose. J'ai beaucoup parlé de ça, je ne vais pas revenir dans les explications. Eh bien, ils écrivent quoi? 20-07-2021. Ça veut dire le 20 juillet 2021. Donc, c'est un événement qui s'est déroulé le 20 juillet 2021. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On dit activation. C'est marqué activation. Concrète. C'est-à-dire, soyez sur le terrain. C'est quelque chose de concret, d'effectif, de factuel. Et c'est relié à Aion. Aion, c'est un mot qui est utilisé par les Grecs anciens pour caractériser la fin des cycles. Vous pouvez vérifier, allez sur votre moteur de recherche préféré, tapez temps, T-E-N-P-S, Aion, A-I-O-N-S, et relisez ce que disent les Grecs. Vous en saurez mieux. Donc, Aion veut dire éternité, veut dire fin des cycles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à partir du 20 juillet 2021, avec une activation concrète, il y a comme une début de fin de cycle apparaît. Aion. Surtout que le A de Aion, c'est le même qu'activation. Oui, il aurait pu avoir un A pour Aion et un pour activation, mais c'est le même. Moi, je fais une enquête là. Je suis comme Sherlock Holmes. Je regarde les détails, j'analyse, c'est tout ce que je dis. Je dis, j'en déduis là que, ben, voilà. Et c'est un peu à corréler avec ce qu'on a vu tout à l'heure, la planète qui passe à travers un trou de verre. Ça pourrait être relié. Ça pourrait être relié. C'est la même région. C'est la même personne qui l'a reçu. Donc, c'est étrange. C'est étrange. Et vous voyez, il y a des heures ici sur les pendules. Et l'heure à Ion, c'est minuit. C'est 24 heures. 24 heures, ça veut dire à Ion. Ça veut dire fin. C'est un peu cendrillon. Vous savez qu'à cendrillon, à minuit, ben, le vaisseau se transforme en citrouille, les chaussures disparaissent, la robe aussi. Ben, c'est un peu l'idée. Donc, c'est-à-dire qu'à minuit, midi, 24 heures, à Ion, on sort le 20 juillet 2021 ou à partir du 20 juillet 2021. Donc, une carte très intéressante. Et juste après, il reçoit une deuxième carte. Toujours dans la même région, vous connaissez. Aion réapparaît, il n'est pas écrit au même endroit, Aion. Et là, de nouveau la pendule, 24 heures. Et là, il y a quatre éclairs, comme des déflagrations, qui va vers une croix, un peu fait par des triangles, une croix triangulaire. Et au centre, ici, c'est le fameux Théopolis, la cité de Dieu, qui était aimé par Saint-Augustin. On parlait tout à l'heure de Saint-Augustin, et bien Saint-Augustin a parlé de Théopolis dans ses écrits. C'est un père de l'Église, Saint-Augustin. Il nomme la Théopolis, la cité de Dieu, dans ses écrits. Donc, on retrouve ici à Saint-Augustin le 28 août. Et les montagnes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent 24 heures, il y a comme une espèce d'éclair, et 0 heure, 01 minute. C'est comme si on passait comme quelque chose qui finissait et quelque chose commençait. Vous direz, mais quand est-ce que c'est? Ben, c'est, on l'a vu tout à l'heure, ben, à partir du 20 juillet 2021, c'est marqué sur la carte. Parce que cette carte suit l'autre. Donc ici, on nous montre un mécanisme. Si on prend les trois cartes, la planète passe à travers un trou de verre gigantesque. On nous dit activation concrète Aion le 20 juillet 2021. Et la troisième carte, on nous dit Aion 24 heures, 01 minute. C'est comme si on faisait un reset, comme une espèce de... Bon, c'est pas le même reset dont on vous a parlé, hein. Attention. C'est comme un passage vers autre chose. Comme une remise à zéro. Comme ça annonce quelque chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Je ne fais qu'interpréter les cartes. Hein, je vous dis rien. Mais ça, c'est les cartes. Et nous sommes allés à ces endroits-là. Nous sommes allés le 20 juillet. Nous étions ici. Et nous avons vécu des choses. Et des choses se sont passées. D'accord? Des choses étranges se sont passées. Des gens ont vécu des expériences. On en parlera une autre fois. Là, je vous présente ça. Les gens ont vécu des choses étranges. Plusieurs personnes ont vécu des choses étranges avec l'heure, avec le temps, avec les dimensions des choses. Comme pour nous confirmer, un peu comme la flèche bleue, peut que nous confirmer qu'il se passe quelque chose, mais que la plupart des gens ne voient pas. La plupart de l'humanité ne sait pas ces choses-là. Parce qu'elle est occupée à autre chose. Mais certaines personnes ont vécu ces choses, personnellement. Et ça concerne la planète entière. Là, ça ne concerne pas un petit groupe de personnes. Pour finir, le lendemain, le 21 juillet, nous sommes allés près de Théopolis, à un endroit ici pour voir la vue. Vous voyez, le groupe est là. Il marche, simplement une randonnée tranquille. Il est là, non problème. Et une personne était derrière nous. Elle a pris nos photos dans le ciel. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce n'est pas un drone, hein? Je vous dis, un drone, ça fait du bruit, on l'entend. Regardez. Qu'est-ce que c'est? C'était au-dessus de nous. C'était au-dessus de nous. Carrément, vous voyez, je redescends. Vous voyez, les personnes sont là. Le problème. C'était là. Qu'est-ce que ça faisait? Qu'est-ce que ça regardait? Qu'est-ce qu'ils sont venus nous voir? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Ça, c'est du réel, c'est du fait. Regardez, j'ai l'agrandissement un peu meilleur, si vous voulez, pour mieux voir que ce n'est pas un drone, c'est clair. Vous voyez? Parce qu'un drone, on l'aura entendu. À cette altitude, vous voyez, on l'entend pas. Puis là, c'est trop haut pour un drone, il n'y avait personne. Il n'y avait que nous. Regardez. C'est pas étrange, ça? C'est pas curieux? Vous ne l'avez pas sous les yeux? Vous avez vu? Et pour finir, lors d'un voyage en Bretagne, en 2018, justement, je suis allé travailler dans une chapelle templière, vous voyez, on voit ici, c'était pas loin de Saint-Andoré. Vous voyez, ça c'est l'écusson des templiers, toujours les templiers dans une chapelle templière, c'est officiel, sans problème, c'est normal, c'est comme ça. Vous voyez, je suis allé ressentir des énergies à ce niveau-là, avec quelques personnes qui m'accompagnaient. Et vous voyez, c'est comme dans un œil, c'est curieux, hein, ce vitrail. Et ça c'est c'est une des devises des Templiers. Deux chevaliers sur un même cheval, c'est les Templiers. C'est sûr. Eh bien, en sortant, j'ai pris une photo. Alors, je vais vous montrer la photo originale. Parce que ça, c'est les arrondissements. Vous voyez? Voilà la photo que j'ai prise. Et quand j'ai regardé la photo, regardez ce qui apparaissait dans le ciel. What else? Tout est dit. Vous voyez, ce n'est pas une fois, c'est des dizaines de fois. Il est en train de se passer des choses extraordinaires, mais les gens ne le voient pas. Les gens regardent ailleurs, alors je reviens vers vous, les gens regardent ailleurs et ne le voient pas. C'est extraordinaire que ça va se passer. Ce sont de très bonnes nouvelles, rassurez-vous. Même si vous ne le voyez pas, alors bien sûr, vous ne verrez pas ça sur TF1, M6, vous ne le verrez pas non plus sur YouTube, à part aujourd'hui. Vous ne le verrez pas parce que c'est un peu secret à la limite, ce serait un peu secret. Mais non, il n'y a pas de secret, on doit tout révéler maintenant. On ne fait pas, nous c'est transparent. On vous montre ce qu'on a vécu récemment. Mais ça fait des années que c'est comme ça. Il ne faut pas croire qu'on aurait des tonnes à vous raconter, avec des photos, toujours. Des photos, il y en a des dizaines. Alors, quand j'ai dit ça n'existe pas, on peut se poser la question. Vous voyez? Des preuves, il y en a des tonnes. Maintenant, est-ce qu'on veut le savoir? Est-ce que ça nous dérange de le savoir? Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Vous voyez, ça, ces paramètres, ils ne sont pas tenus compte dans la société. On est dans la société normale, on voit avec la crise sanitaire, la crise politique, tout ça. Mais on ne voit pas que de l'autre côté, il se passe des choses extraordinaires. Et ça, ça pèse dans la balance, vous devez comprendre. Que c'est des paramètres, je dirais même que c'est les paramètres les plus importants. Ils sont discrets, ils ne sont pas visibles. Mais à un moment donné, ils impactent ce qui se passe. C'est pour ça que je vous le dis, c'est pour que vous ne soyez pas trop étonnés quand ça va arriver. Parce que ça ne va pas arriver. Ça est en train d'arriver. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Je ne le sais pas. Mais ce que je peux vous dire, que je suis scientifique à la base, quand je compile les données que je croise, que je regarde et j'essaie de vous donner des dossiers sérieux, on voit bien quelque chose qui est en train d'arriver. Et ce n'est pas forcément ce qu'on voit dans la société. Ce n'est pas forcément ce qu'on voit dans la société. Il y a la société, c'est la partie immergée de l'iceberg. Et dessous, c'est des noms. Et tous ces êtres-là, ils ne sont pas malveillants. Ils sont bienveillants. Ils sont là pour aider, soutenir l'humanité. Donc, de temps en temps, il faut regarder ces choses-là. Parce que sinon, c'est le désespoir. Mais moi, je sais qu'il y a plus d'espoir que de désespoir. Il y a plus de belles choses qui arrivent que nous. Mais on se focalise sur les choses qui sont terribles. Je le comprends. C'est sous nos yeux. C'est dans nos vies. Je suis d'accord. Mais moi, dans ma vie, il y a ça aussi. Vous pouvez le vivre aussi. Vous pouvez le vivre aussi. Et là, vous aurez plus de force, plus de joie, plus d'espoir, parce que vous verrez autre chose qui interfère fortement. Même si vous ne le voyez pas. C'est ce qu'Einstein a pu appeler les variables cachées. Il y a de nombreuses variables cachées dont on ne tient pas compte dans l'équation de notre vie actuelle. On prend que quelques paramètres, le Covid, le machin, tout ça, et on travaille avec ça. et peut-être vous avez 10 autres paramètres qui sont des coefficients beaucoup plus puissants, qui sont capables de changer des réalités encore de façon si des humains s'en occupent, si des humains les conscientisent, si les humains font attention à ces choses-là. Si il y en a quelques-uns qui le font, alors ces paramètres jouent un rôle fondamental. Mais si on s'en détourne, donc, j'ai ouvert une voie à vous de d'étudier, de faire vos recherches, de faire ces rencontres aussi, parce que rien n'empêchera le fait que vous faites des rencontres, c'est bien. Ça ne peut pas empêcher l'expérience directe. Mais, dans mon vécu et le vécu d'autres personnes qui sont avec moi, des amis, c'est monnaie courante. C'est un peu comme le Mexique, hein. C'est un peu comme le Brésil, c'est un peu comme le Pérou autour de nous. Ça, il faut en tenir compte. Voilà. Alors, JT nous fait des super guématries. Voyons un petit peu ce que vous dites. Voilà. Tu as peut-être des rêves très forts à nous raconter. Oui, mais j'aimerais que vous les racontiez les vôtres. Parce que mes rêves, c'est un fait. Mais j'aimerais que nous rêvions ensemble. Le but, c'est de rêver ensemble à des choses merveilleuses. Moi, j'essaie de vous donner simplement la base. Vous dire, vous savez, ça existe. Les rêves se manifestent. Les rêves, maintenant, rêvez de belles choses. Même si ce que vous voyez autour de vous, c'est du cauchemar. Mais ce cauchemar, c'est le résultat de vos anciens rêves. Vous ne les regardez pas. Rêvez de belles choses. Rêvez de belles choses parce que ça marche. Je vous le garantis. Et ça va aller de plus en plus fort, de plus en plus vite dans les temps qui viennent. C'est ce que je peux vous dire. C'est ce qui ressort des études que nous avons faites. Jean-Michel, connaissez-vous l'histoire pour un rendez-vous de 54 000 à Concorde, à Paris, le 6-7 septembre 2021? 3 jours, 3 nuits? Non, je ne connais pas cette histoire. Mais aidons ces gens qui vont se réunir, les 54 000 à Concorde. À Concorde, ce n'est pas un lieu anodin à Paris, hein, étudiez l'histoire, on verrait. Eh bien, soutenons ces personnes, envoie-leur des meilleures pensées pour qu'ils aient des rêves magnifiques, vous voyez, pour que ça se passe au mieux et que ça, voilà. L'idée, c'est aussi de les aider, soutenir. Peut-être que je ne serai pas là, encore, sûrement pas. Mais on peut quand même y participer en leur envoyant des rêves forts, des puissants rêves de réussite, des positions de paix, d'harmonie, de joie, de calme. Vous voyez, pour que cette action soit fantastique. Rêvons. Un changement de dimension, 235, 385, l'univers est double. Voilà. Mais vous voyez, JT. Jean Toussaint, énorme. La guématrie confirme. S'il te plaît, Jean Toussaint, tu pourrais m'envoyer cette guématrie que tu m'as fait, parce que je ne vais pas pouvoir la copier, là. Elle m'intéresse beaucoup, parce qu'elle va dans le sens que nous disons, la guématrie nous le dit, c'est les nombres, la guématrie. C'est les lettres et les nombres, il n'y a pas plus rationnel que ça. Merci, Jean, de cette idée. Le code 707, ben, 707, alors c'est un code 707, qui est relié au passage que nous sommes en train de vivre. C'est un code 707. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que, bon, c'est délicat, il faut en parler beaucoup pour comprendre, pas intellectuellement, mais il y a des choses. Donc, 707, c'est le code d'un passage qu'on est en train de vivre actuellement. L'humanité, quand je vois. L'humanité est en train de vivre en 707. C'est un peu comme James Bond, oui. Et voilà. Et quand il fait 7, le code 707, eh bien, c'est qu'est-ce que l'ascension? Donc, vous voyez, il a prononcé le terme de l'ascension. Mais l'ascension, c'est peut-être un passage dimensionnel. C'est un passage dans un autre temps. C'est un passage dans un autre espace-temps. Qui sait? Est-ce que c'est ça qu'on est en train de nous annoncer? Je vous laisse réfléchir. Ils ont tellement d'avance sur nous, petits bébés à côté d'eux. Oui, mais c'est pas grave. Ils sont là pour nous aider et nous soutenir. Ils sont là pour nous aider et nous soutenir. Ces êtres ne sont que là. Si on l'ouvre la porte, avec la paix, l'amour, la joie, la bienveillance, sans la peur, abandonner la peur, parce que sans la peur, ça ne marche pas dans ce cadre-là. Donc, mieux pas. Quand vous avez dans la paix, dans la joie, vous avez des rêves puissants, ils sont là pour vous aider. Croyez-moi. Je l'ai vécu. J'étais comme vous à un moment donné, hein, je doutais de tout. Hein. Mais j'ai eu tellement de preuves. Donc, ils sont là pour nous aider. Mais il faut qu'on se tourne vers eux, qu'on leur tende la main. Si on ne leur tend pas la main, ils ne pourront pas nous aider. Ils ne pourront pas. Mais il faut y aller. Ils sont là pour nous soutenir. Vous voudriez faire vérifier votre graine de beauté sur le crâne. Merci, oui. Oui, on me l'a déjà dit. Oui, je vais y aller. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre sollicitude. C'est pas très joli, c'est peut-être un mélanome. Oui, je suis allé déjà voir il y a quelque temps, on m'a dit que non, mais bon, on verra, on goûtera. Voilà. Voilà, écoutez, c'est l'heure, on va finir aujourd'hui cette conférence sur les portes du temps, le point oméga, et c'est peut-être ça qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas. Vous savez, je jette des idées comme ça, hein, je jette des idées. Est-ce que le point oméga ne serait pas ce que nous sommes en train de vivre? Est-ce que ça ne ressemblerait pas à un point oméga? La question est lancée. Et je suis sûr que vous avez déjà un élément de réponse. À vous d'y réfléchir. Je vous remercie de votre attention, conscience, ouverture, longue vie et prospérité à chacun. Que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Et à bientôt pour de nouvelles informations. Merci à tous. À bientôt.